La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivaine George Sand, 1804-1896. Une série entamée hier avec Martine Reed qui nous a rappelé la biographie de La Grande Dame de Nohant, série que nous poursuivrons demain avec l'historien Vincent Robert qui nous parlera, lui, des sorcières dans la campagne berrichonne au temps de George Sand, car des sorcières, il en est parfois question dans ses romans et notamment dans La Petite Fadette dont nous parlerons en particulier. Jeudi, c'est dans l'immense correspondance sandienne que nous avons prévu de plonger, ce sera avec Thierry Baudin qui a lu, tiré et édité bon nombre de lettres parmi les 20 000 envoyées par l'auteur d'Histoire de ma vie. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous revenons sur le parcours politique de George Sand, né au moment où Napoléon Ier règne sur l'Europe. Elle mourra alors que la Troisième République est déjà bien installée dans le paysage politique français. Entre-temps, elle aura connu trois soulèvements, 1830-1848, et la Commune de Paris. Nous en parlons non pas comme prévu et annoncé avec Michel Perrault, qui n'a finalement pas pu se rendre aujourd'hui dans notre studio et que nous saluons, mais avec une autre très grande sandienne, à savoir l'universitaire et critique littéraire Béatrice Didier, qui vient de publier au PUF un essai intitulé « George Sand, écrivain, un grand fleuve d'Amérique » et qui a également dirigé les œuvres complètes de Sand aux éditions Honoré Champion, où paraît ces jours-ci le volume 1837 « Les maîtres mosaïstes ». Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Savez-vous que je n'ose plus écrire à mes amis, que je n'ose plus parler à ceux qui sont près de moi, dans la crainte de détruire les dernières illusions qui les soutiennent? Je devrais ne pas écrire, car j'ai la certitude qu'on lit toutes mes lettres. Du moins, celles que je reçois ont été décachetées et portent la trace grossière de mains qui ne cherchent pas même à cacher l'empreinte de leur violation. On surprend nos espérances pour les déjouer, on surprend nos découragements pour s'en réjouir. Toutes les administrations publiques sont remplies de gens qui ont mérité les galères. On n'ose plus confier 100 francs à la poste, rien ne sert de se plaindre, pourvu que les voleurs pensent. Bien, ils ont l'impunité. Voilà la France. Le peuple le sait, cela lui est indifférent. Que voulez-vous qu'on dise au pouvoir pour les faire rougir? Que voulez-vous qu'on dise aux opprimés pour les réveiller? Il faudrait pouvoir écrire avec le sang de son cœur et la bile de son foie, le tout pour faire plus de mal encore. Car il est des heures où l'homme est comme un somnambule qui court sur les toits. Si on crie pour l'avertir, on le fait tomber un peu plus vite.
Une lettre de George Sand, lue par Madeleine Robinson, dans laquelle la romancière se dit espionnée par le régime de Napoléon III. Bonjour Béatrice Didier. Vous pensez qu'elle était effectivement espionnée après l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, George Sand ?
Oui, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que le fait même d'écrire chez George Sand est un acte politique. Moi, personnellement, je l'ai plus étudié en tant qu'écrivain et romancière et autobiographe qu'en tant que femme politique, mais on ne peut pas dissocier les deux parce que l'acte même d'écrire est un acte politique. On sait bien que il n'y a pas de texte qui soit absolument neutre, et d'autant plus que dans ses romans, très souvent, elle met en scène justement des problèmes sociaux très réels, les problèmes des femmes, les problèmes des ouvriers, des paysans, etc. Et je pense que le fait d'écrire est un acte politique pour tout homme, bien sûr, mais peut-être plus encore pour une femme. À l'époque où George Sand écrit, où quand même les femmes sont minoritaires dans la littérature, souvent cantonnées dans des genres qui sont considérés comme féminins, la poésie lyrique, le roman sentimental. Mais on voit mal une femme s'affirmer par son écriture dans le domaine politique à l'époque de George Sand. Donc il me semble que George Sand est une femme politique doublement, non pas seulement par sa participation à certains événements qu'on va évoquer tout à l'heure, ou d'ailleurs on peut discuter sur certaines choses, mais par le fait même qu'elle a écrit une œuvre colossale, puisque là, je me trouve à la tête de cette édition chez Champion, que nous avons déjà fait sortir 25 volumes et qu'on en prévoit encore autant, même probablement plus.
Mais alors, comment mesurer l'influence, Béatrice Didier, de George Sand? C'est évidemment très difficile, mais intuitivement, comme ça, si Napoléon faisait décacheter, Napoléon III, hein, faisait décacheter ses lettres, c'est bien qu'elle avait une forme d'influence tout de même.
Bien sûr qu'elle avait une forme d'influence. Alors, elle s'est plaint d'ailleurs que sous Napoléon III, la liberté de s'exprimer était fortement limitée. Hein. Moi, j'avais écrit il y a déjà assez longtemps un article sur ce thème, la presse bâillonnée. Le mot bâillonnée étant pris d'ailleurs de chez Georges Sand même. Hein. Elle a considéré que la presse était bâillonnée. Alors, on aura tout à l'heure probablement à revenir à la question de ses rapports avec Napoléon III, qui sont complexes, comme est complexe d'ailleurs le personnage de Napoléon III, puisque au début, elle l'a connu dans une période où il n'était pas du tout encore empereur et pas du tout despote, en tout cas.
Et où là, elle le soutenait plutôt. Ouais, d'ailleurs, Napoléon III s'en est souvenu quand il est arrivé au pouvoir.
Et puis ensuite, alors, il y a eu le fameux plébiscite et Napoléon qui est devenu Napoléon III, empereur des Français. Alors là-dessus, on a beaucoup discuté parce qu'on lui a reproché une sorte d'adhésion à Napoléon III. En fait, c'est pas exactement ça, mais elle a dit, au fond, puisque le plébiscite a été favorable à Napoléon III, bon, on peut discuter, bien sûr, enfin, le fait est là, donc il n'a pas usurpé le pouvoir. Ça ne veut pas dire pour autant que son pouvoir soit acceptable, naturellement, ça c'est une autre question. Enfin, on va y revenir, je pense.
Exactement, on va y revenir, on va reprendre aussi un petit peu chronologiquement les choses. Mais avant cela, Béatrice Didier se pose une question autour du mot de politique. Est-ce qu'on peut réellement dire que George Sand était quelqu'un qui faisait de la politique ou est-ce qu'il faudrait plutôt parler d'un engagement qui serait un engagement citoyen pour vous ?
Oui, le mot politique, tout dépend du sens qu'on lui donne. Évidemment, si on veut faire de l'archéologie, on peut dire que le mot politique vient du grec polis, et que donc tout ce qui concerne la ville, l'organisation de la cité et du groupe humain que nous sommes, et de la politique.
Mais c'est pas ça tellement qui l'intéressait. Autant son fils a été maire de Nohant, autant elle, c'était pas le quotidien de la politique qui l'intéressait, c'était les grands combats.
Je pense qu'elle s'est plutôt beaucoup intéressée au problème de l'organisation de la société, et que ça, c'est quand même un problème politique fondamental. Elle a été très influencée par Pierre Leroux, par le socialisme de son temps. Et, bon, c'est quand même bien faire de la politique.
Elle a quand même changé le titre de son volume d'essais politiques, qui s'appelait initialement Politique et philosophie. Elle a décidé finalement de l'appeler Polémique. Donc c'est bien qu'elle se place quand même un petit peu en retrait par rapport à la politique telle que la grande politique.
Ou la petite politique, elle n'a pas écrit de traité comparable au contrat social, par exemple. Hein. Mais elle a beaucoup lu Rousseau, justement. Elle avait une forte formation, d'abord livresque, je pense, et ensuite par l'intermédiaire d'un certain nombre d'amis qui, eux, étaient plus nettement engagés. Alors, d'abord, les livres, elle a lu beaucoup le XVIIIe siècle. C'était normal, puisque elle vivait au début du XIXe, et elle a lu les philosophes, elle a lu Voltaire, elle a lu Rousseau qui est très à la mode à sa génération. Elle a lu l'Émile, qui propose un nouveau mode d'éducation, mais elle a lu, bien sûr, les Confessions. Elle trouvait d'ailleurs que Rousseau avait été un peu indiscret envers les femmes qu'il avait aimées. Enfin, en tout cas, elle s'est intéressée au contrat social qui, lui, est typiquement un texte politique et même un texte qui va avoir une influence déterminante sur la Révolution et surtout le XIXe siècle, et même encore au XXe, on peut dire. Donc, elle a beaucoup lu Rousseau. Et puis alors, elle a eu une occasion, elle était très accueillante, très... volontiers, elle invitait des amis, elle avait un groupe d'amis très fidèles autour d'elle. Elle a connu un certain nombre de penseurs de son temps qui sont très intéressants, qu'on a beaucoup étudié depuis, qui marquent une sorte de premier socialisme français, qui n'est pas le communisme, qui est plutôt une sorte d'humanitarisme collectiviste. Et elle a fait même des expériences pratiques avec son ami Pierre Leroux. Oui. Pierre Leroux, qui Lui, alors, avait voulu créer une sorte de phalanstère au sud de Nohant, phalanstère auquel George Sand a apporté son aide, et y compris une aide financière.
On va reparler, évidemment, de sa rencontre avec Pierre Leroux un petit peu plus tard. Alors Béatrice Didier, le parcours politique de George Sand, c'est celui d'abord d'une prise de conscience, parce que jusqu'en 1830, dans sa vingtaine, elle ne s'intéresse pas à la chose publique précisément. Oui. Elle lit effectivement, comme vous le dites, les philosophes, mais elle dit, ça c'est une citation assez étonnante, elle dit « Je suis trop femme pour être un bien chaud partisan de telle ou telle doctrine ».
Oui, alors là déjà ça fait bondir les féministes actuelles. Et je pense qu'il y a eu en effet chez George Sand une prise de conscience progressive du rôle qu'elle pouvait jouer. Et qu'avant 1830, en effet, elle n'a aucun engagement politique. Elle lit, ou ça, elle lit beaucoup, mais c'est tout. Mais alors, je crois qu'il y a eu quand même quelque chose de fondamental, ça a été sa rencontre avec Michel de Bourges.
Voilà, grande rencontre importante.
Voilà, au moment de son divorce, puisque Michel de Bourges va la défendre.
Peut-être redire qui est Michel de Bourges.
Alors, Michel de Bourges, c'était un avocat qui était républicain et qui a été très actif lors du procès, des procès politiques de la monarchie de Juillet. Il a défendu les accusés et dans les lettres d'un voyageur, George Sand lui rend hommage en le désignant nommément dans la sixième lettre sous le nom d'Everard. Everard, c'est Michel de Beauce.
Quelqu'un qui était très radical.
Oui. Et donc, je pense que c'est de Michel de Bourges qu'elle a tiré sa première formation politique, qui ensuite s'est continuée avec Lamennais, avec Pierre Leroux, justement, qu'on a déjà évoqué, avec des nuances différentes, d'ailleurs, parce que chez Lamennais, la pensée politique est quand même liée à la pensée religieuse, même s'il est en désaccord avec Rome, ça n'empêche pas. Elle le considère comme le père d'une église nouvelle. Il crée le journal Le Monde et elle y collabore. Et simplement, elle va plus loin que l'amener en un sens et il va y avoir une sorte de demi-rupture après les lettres à Marcy, texte de George Sand qui est d'un féminisme beaucoup plus agressif.
Alors, le moment Michel de Bourges, il est aussi symptomatique de la passion qui anime George Sand en politique, mais pas que en politique.
Non, et bien sûr.
Parce que c'est évidemment son amant, Michel de Bourges. Et il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de la passion dans le comportement de George Sand, qui lie, en fait, politique et la politique et la vie.
Oui, c'est évident. Enfin, c'est bien connu, d'ailleurs, que Michel de Bourges a été l'amant de George Sand. Il y a eu entre eux une communion qui n'était pas seulement intellectuelle, c'est vrai.
Mais est-ce qu'il ne faut pas toujours ça pour George Sand? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait toujours ce sentiment quand même très fort, qui n'est pas forcément de l'amour,
mais qu'elle est touchée avec Lamennais, je ne crois pas.
Non, certainement pas. Mais enfin, c'est quelqu'un qui pense la politique sur un mode qui est aussi celui du sentiment, de l'émotion.
Oui, oui, ben ça est très romantique, évidemment. C'est une âme passionnée. Elle se passionne pour les hommes qu'elle a aimés, mais elle se passionne aussi pour les idées. Alors, quand les deux se rencontrent, comme c'est le cas de Michel de Bourges, ben ça va très bien, au moins pendant un certain temps, parce qu'ensuite, finalement, elle a quand même été déçue par Michel de Bourges, en ce sens que elle l'a dit elle le dit dans l'histoire de ma vie. Au fond, elle a le sentiment d'avoir toujours plus aimé qu'elle n'a été aimée. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec Michel de Bourges.
Alors, pendant ces fameux procès, durant lesquels Michel de Bourges défend un certain nombre de républicains, là, on peut dire que George Sand s'engage réellement.
Oui.
Puisqu'elle va assister au procès, elle doit se déguiser en homme, d'ailleurs, pour pouvoir rentrer au tribunal, et puis elle fait des comptes rendus journalistiques.
Oui, oui, là, il y a vraiment un début d'un engagement politique précis, donc je pense que ça a été déterminant, Michel de Bourges. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un ensemble d'éléments à la fois personnels et idéologiques qui se mêlent. C'est vrai qu'elle est aussi en plein divorce et que son divorce pose beaucoup de problèmes à cette époque-là, surtout où les droits de la femme sont très limités et où du devant voudrait annexer complètement la maison de Nahon, l'argent, etc.
Du devant son mari.
Et puis... Bon, il fallait vraiment rompre avec Dulvent, soit une entente n'était vraiment pas possible entre eux. Donc, il y a cet élément personnel. Michel de Bourges et son avocat la défend bien, ce qui n'était pas si facile à cette époque. Et en même temps, il défend les accusés politiques de la monarchie de Juillet, dont il est doublement utile. Et tout ça se fait une sorte de rencontre entre son divorce, et le procès, etc.
Donc, Béatrice Didier, première rencontre importante, Michel de Bourges. Deuxième rencontre très importante, vous en parliez, c'est Pierre Leroux. Et là, on va passer chez George Sand du républicanisme à une forme de communisme.
Oui, une forme de communisme. Alors, c'est en avril 1835, il y a un procès des 10 000 insurgés après la révolte des Canuts de Lyon et puis diverses insurrections qui avaient eu lieu en 1834. Donc là, il y a une répression très sévère et Pierre Leroux essaie de défendre ces malheureux qui sont soit exécutés, soit envoyés au bagne. Et c'est peut-être Sainte-Beuve qui a contribué à orienter George Sand vers Pierre Leroux et aussi vers un autre écrivain politique moins connu, Jules Reynaud. Tous deux travaillant à ce qu'ils ont appelé l'encyclopédie universelle, à laquelle George Sand aussi a travaillé. Alors, il semble que George Sand ait rencontré Pierre Leroux en juin 1835, et avec lui, dont elle va faire cette expérience qu'on a évoquée tout à l'heure du phalanstère, mais elle va poursuivre aussi une réflexion philosophique où se mêle une dimension mystique, parce que Pierre Leroux est un socialiste pré-communiste, disons, mais qui est en même temps un mystique et qui croit à une sorte de réincarnation des hommes qui irait vers un progrès croissant. Alors, il y a une sorte de mélange de ce qui nous semble un peu de l'hindouisme avec la pensée des Lumières du progrès de la société.
Et chez George Sand, le rapport à la religion est très lié, évidemment, avec sa conception de la politique.
J'ai reconnu que j'étais peu de chose. Raison, sentiment, instinct réunis, cela fait encore un être si fini et une action si bornée qu'il faut en revenir à l'humilité chrétienne jusqu'à ce point de dire... Je sens vivement, je comprends fort peu et j'aime beaucoup. Mais il faut quitter l'orthodoxie catholique quand elle dit « je prétends sentir et aimer sans rien comprendre ». Cela est possible, je n'en doute pas, mais cela ne suffit pas à accomplir la volonté de Dieu qui veut que l'homme comprenne autant qu'il lui est donné de comprendre. En résumé, s'efforcer d'aimer Dieu en le comprenant et s'efforcer de le comprendre en l'aimant. S'efforcer de croire ce que l'on ne comprend pas, mais s'efforcer de comprendre pour mieux croire. Voilà tout Leibniz. Et Leibniz est le plus grand théologien des siècles de lumière. Je ne l'ai jamais ouvert depuis 10 ans sans trouver dans celle de ses pages où il se met à la portée de tous la règle saine de l'esprit humain, celle que je me sens de plus en plus capable de suivre.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de George Sand et la politique avec vous, Béatrice Didier. On l'entend ici, le christianisme de George Sand, c'est un christianisme qui est profond, un christianisme qui restera, je crois, sans réserve jusqu'à la fin de sa vie, mais qui se veut éclairé et peut-être dans son rapport avec l'institution de l'Église.
Oui. Alors, je pense que là aussi, il y a la tradition du XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, déjà, existait tout un courant de christianisme éclairé, comme on dit, c'est-à-dire de christianisme très large, et qui retient la figure du Christ, bien sûr, mais pas du tout le détail des dogmes de l'Église. Et puis là-dessus, il y a eu la Révolution avec tout le mythe de Jésus sans culotte, Jésus représentant l'ouvrier, le peuple, etc. Donc tout ça est malgré tout présent.
Elle est là-dedans, elle le voit comme ça, d'après vous
Un petit peu. Un petit peu. Alors, son enfance est une enfance de catholique. Sa grand-mère l'amène à la messe, etc. Mais petit à petit, elle va se détacher d'un catholicisme trop rigoriste, trop attaché à des dogmes, à des pratiques. Et elle, dans les derniers temps de sa vie, on peut parler chez elle d'un certain protestantisme. Enfin, elle serait plus près des protestantes que des catholiques, parce qu'elle voit chez eux plus d'ouverture, de possibilités de jugement personnel. Et il n'y a pas une autorité aussi nette chez les catholiques. Et puis, ce qui est très curieux aussi, c'est qu'elle semble avoir été influencée par l'Extrême-Orient. Dans les tournes d'une grand-mère, par exemple, apparaissent des thèmes, c'est la dernière œuvre de sa vie pratiquement, apparaissent des thèmes de réincarnation, justement. Alors, un peu comme Leroux, elle arrive très curieusement à allier le thème de la réincarnation et le thème de la philosophie des Lumières, du progrès constant de l'humanité. L'humanité va progresser parce que les hommes, en se réincarnant, vont être de plus en plus spirituels. Évidemment, c'est optimiste comme vue, mais c'est assez amusant parce que par certains aspects, ça annonce un penseur comme Teilhard de Chardin. C'est aussi, il y a cette idée que l'humanité progresse dans la mesure où l'esprit devient de plus en plus dominant. Alors là aussi, bon, on peut malheureusement penser que c'est très optimiste, mais c'est intéressant de voir cette pensée qui est à la fois progressiste et spiritualiste.
Mais il y a tout de même cette idée que l'institution de l'Église va à rebours, et c'est un peu le sujet de son roman Spiridion.
Oui.
Ce roman où peut-être vous pouvez nous redire de quoi il s'agit.
Alors justement, Spiridion, c'est un roman que j'aime beaucoup, qu'on va sortir très prochainement chez Champion dans une édition d'Isabelle Naginsky, qui est une grande standienne qui vit aux États-Unis. Et on peut penser que dans l'histoire de ce moine Spiridion, il y a aussi beaucoup d'éléments qui viennent de l'amener. Parce que Spiridion, lui aussi, a été persécuté par les institutions
religieuses. Donc c'est l'histoire d'un jeune moine qui, dans un couvent, finalement, alors qu'il est, il mène une vie parfaite, une vie de grande pureté spirituelle, il est quand même rejeté par la communauté du couvent.
Il est rejeté par la communauté, et puis il trouve dans la tombe du père fondateur un manuscrit qui exprime sa pensée philosophique. Alors, ça amène évidemment le thème de la force de l'écrit qui survit à la persécution, qui survit même à la mort. Et d'ailleurs, ce texte s'était très bien étudié, justement, je parlais tout à l'heure de Teilhard de Chardin, par un autre père jésuite, le père de Lubac. Ça peut paraître étonnant, mais il s'est beaucoup intéressé à George Sand et il a fait une très belle analyse de Spiridion.
Et qu'est-ce que vous en gardez alors de ce texte Spiridion?
Moi, j'aime beaucoup Spiridion, je trouve que c'est un très beau texte parce que il y a une analyse de la vie conventuelle, bien sûr, mais il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, je pense, qui est un espoir dans l'humanité. L'humanité en marche, malgré les persécutions, malgré les drames, malgré les massacres, etc., il y a un témoignage optimiste, finalement.
Mais est-ce que vous diriez que chez George Sand, il y a des romans qui sont des romans à thèse? On parle de Spiridion, on sait que ça se termine bien, en fait, Spiridion. Mais est-ce que ça signifie qu'elle écrit en voulant faire passer un message, ou est-ce que ce n'est pas ce genre d'écrivain-là?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que George Sand est une romancière à thèse. Je crois qu'en artiste, elle s'est rendue compte que le roman à thèse, c'était finalement assez dangereux, parce que l'idée finit par stériliser l'invention, les personnages, les paroles.
Mais elle a eu cette tentation à certains moments.
Il y a quand même des romans qui sont très porteurs d'une idéologie, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'elle ait écrit des romans à thèse. Et quand elle écrit des romans historiques, c'est souvent pour faire voir en transparence la situation présente, mais seulement en transparence. Par exemple, je pensais à propos du protestantisme au beau monsieur de Bois Doré. Les beaux monsieur de Bois Doré se situent justement au moment des guerres de religion. Et tout ce thème de la persécution religieuse, ou au contraire de la défense de l'ouverture d'esprit contre le fanatisme, tout ce thème, elle l'analyse à travers des personnages du XVIe siècle, mais on voit bien derrière ses idées. Mais je crois que ce n'est pas un roman à thèse, quand même.
Elle disait qu'elle écrivait non pas des romans de l'histoire, mais des romans dans l'histoire.
Des romans dans l'histoire, certainement. Et je crois que c'est une des beautés de ses têtes, justement, c'est de se situer très nettement dans l'histoire. Et quand on lit les textes intégralement, ce qu'il faudrait toujours faire, on voit que cet ancrage dans l'histoire est très marqué. Très souvent, dans les romans de George Sand, il y a l'évocation d'une période pré-révolutionnaire, par exemple, ou même franchement révolutionnaire avec Nanon. À mon avis, un des plus beaux romans de George Sand, c'est Nanon, qui se situe pendant la Révolution française.
Pour quelle raison ?
Mais c'est un très beau roman, d'abord parce que le thème de la Révolution est un thème porteur de toutes sortes d'événements, ça c'est bien évident, mais aussi parce que c'est la Révolution vue à la campagne. Et ça, c'est très original quand même par rapport à Victor Hugo ou à Balzac, qui aussi ont été des romanciers de la Révolution, mais de la Révolution urbaine. Alors que George Sand, elle situe son roman juste toujours dans son Berry, dans le centre de la France.
Oui, mais justement, parfois, il y a cette opposition entre les paysans du Berry, qui sont plutôt conservateurs, qui ne sont pas tellement pour la Révolution, et elle est très attachée à ces paysans qui sont ses voisins, ses amis. Et puis, il y a Paris, où elle vit également, la capitale de la France, la ville des artisans, des ouvriers, où là, il y a ce souffle révolutionnaire. Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu écartelée entre ces deux
La campagne a moins bougé dans la Révolution que Paris, que les grandes villes de France. Mais c'était très intéressant quand même de montrer la présence de la Révolution dans les campagnes, avec tous les phénomènes que ça implique. Par exemple, le fait que les nouvelles arrivent avec 3 ou 4 jours de retard. Hein. Nous qui sommes habitués à la télévision, à Internet, etc., on ne se rend pas compte de ça. Mais à cette époque-là, et c'est vrai, les nouvelles arrivaient à nos 3 ou 4 jours après les événements. Et d'autre part, les paysans, en effet, étaient plus conservateurs, en gros, mais quand même, ils ont été attachés à la Révolution par la question des biens nationaux. Les biens nationaux sont des biens que de l'Église ou des aristocrates que la Révolution avait confisqués et qu'elle a vendus à bas prix, ce qui a permis à beaucoup de paysans d'acquérir leurs terres. Et ça, c'était quelque chose de formidable pour eux. Et on voit à quel point les paysans tenaient à ces biens nationaux. Lorsque, par exemple, il y a eu le retour de la monarchie, c'est une des grandes peurs des campagnes, qu'on leur reprenne leurs terres.
Dernière question, et puis après ce sera la chronique d'Olivier Monnier que déjà j'annonce. Est-ce que pour vous, Béatrice Didier, il y a du réalisme dans les romans de George Sand ? Est-ce qu'on peut parler de romans réalistes pour certains d'entre eux ?
Alors, soit qu'il faut un peu sortir des catégories trop strictes de l'histoire littéraire, ce n'est pas le réalisme de Zola, c'est vrai. Mais il y a la présence d'une réalité quand même très forte. Et je crois qu'il faut distinguer dans les romans de George Sand à la fois la réalité de tous les jours, la réalité quotidienne, la nourriture, les vêtements, les détails de la vie paysanne qui sont rendus de façon très réelle, et puis une certaine idéalisation des personnages principaux. On voit ça dans le Meunier d'Angibault. Le Meunier d'Angibault, il y a une description vraiment très réaliste de l'alcoolisme dans la campagne, de la misère, de toute la vie quotidienne qui est très dure.
C'est un roman socialiste, ça.
En un sens, c'est un roman socialiste. Mais autant la peinture de la paysannerie est réaliste, autant le personnage du Meunier d'Angibault est un peu rêvé et un peu idéaliste. Alors, je crois que on se trompe là-dessus, parce que on voit des romans champêtres très idéalistes. En fait, ils sont très réalistes. Mais il y a les deux aspects.
Allez, chose promise, chose due. Nous allons continuer de parler de Georges Sand et la politique dans quelques minutes, Béatrice Dizier. Mais tout de suite, c'est En compagnie des revues. En compagnie des revues avec aujourd'hui, je le disais, Olivier Mauny, ici même, dans ce studio à Paris. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour madame.
Un livre préféré de Georges Sand ?
Le premier, c'est souvent le cas, découvert tout à fait par hasard dans l'adolescence, dans une maison de vacances.
Ah bah c'est toujours dans une maison de vacances avec du à Cajard, j'imagine, non ?
Non, c'était pas à Cajard, c'était non loin d'ailleurs d'une maison de Georges Sand, du côté de Bergerac, pour tout vous dire. C'était un hiver à Majorque et je crains de décevoir. J'ai cru comprendre que les Sandiens les plus fervents ne le tiennent pas pour le meilleur ouvrage de Georges Sand. Mais...
Donc où elle raconte le moment qu'elle a passé avec Chopin, quelques mois à Majorque, où apparemment elle a été plutôt mal accueillie par les locaux, c'est ça ?
Alors voilà, moi je crains hélas de devoir avouer que j'ai du coup laissé tomber Georges Sand, mais j'ai gardé Majorque et elle y est pour quelque chose.
Ah oui, mais moi je trouve que c'est un très beau texte, Majorque. Et ça rejoint d'ailleurs Spiridion, parce que Spiridion a été terminé à Majorque, et il y a l'évocation du monastère doit beaucoup à Majorque. Et d'ailleurs, quand on va à Majorque, on peut reconnaître les descriptions de Georges Sand.
Alors aujourd'hui, Olivier, vous allez sacrifier au sentiment, lors de votre chronique, au bon sentiment même, puisque vous allez nous parler d'amitié.
Oui, Mathieu, et c'est de la faute de Roger. Ah. Roger Tailleur, l'un de nos plus fins critiques cinéma, positif surtout, durant l'âge d'or de la cinéphilie, c'est-à-dire circa les années 50-60. À 40 ans, il a cessé d'écrire, laissant tomber le 7e art pour les joies d'un promeneur solitaire et amoureux de l'Italie, sa passion première, traversée et retraversée sans cesse. Et à 58 ans, hélas, il a cessé de vivre. Qui se souvient de lui ? Frédéric Vitoux, qui fut, malgré ses foucades, ses errances, sa misanthropie parfois aussi, son ami. À qui son souvenir demeure une grâce, tant et si bien qu'il publia quelques mois après sa mort un court récit, tombeau autant qu'exercice d'admiration, « Il me semble désormais que Roger est en Italie ». Ça fait référence à une phrase célèbre du prince de Breuil, à qui, quand on lui demandait où était sa fille, lorsque l'on ignorait que la fille en question venait de décéder, répondait joliment « Il me semble désormais que ma fille est en Amérique ». Donc cette fois-ci, « Il me semble désormais que Roger est en Italie ». Depuis 30 ans, ce livre, opportunément réédité ces jours-ci par les excellentes éditions des Équateurs, est un talisman, un secret magnifique que partagent quelques happy few, cinéphiles désolés ou amateurs de campagne toscane, certes, mais aussi tous ceux qui savent la trace vive que laisse dans toute vie une amitié vraie, la douleur pernicieuse de son deuil aussi. Roger Tailleur est à jamais, pour ceux qui le liront, l'ami de Frédéric et vice-versa. Or, à bien y regarder, l'amitié est rarement, en tout cas à notre époque, un véritable enjeu littéraire. Dans le paysage littéraire contemporain, c'est à peu près un no man's land. Ce n'est pas un sujet, ce n'est même souvent pas un livre. Ou alors, il faut que cette amitié soit en quelque sorte comme exaucée par un contexte historique et narratif fort, comme dans le tout de même très beau « L'ami retrouvé » de Fred Ullmann, par exemple.
Alors pourquoi est-ce que l'amitié, Olivier, ne serait pas un sujet de roman ? C'est tout de même une belle histoire.
Bien sûr, Mathieu. Mais peut-être trop belle, justement. Ne faisant pas assez appel au conflit, à la rupture, les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est entendu. Et Vitoux écrit justement dans son livre qu'un ami, c'est un démultiplicateur de bonheur. Belle expression. Un roman d'amitié, ce serait, si vous m'y autorisez, comme un roman d'amour sans chapitre, en quelque sorte. C'est un peu aride pour le lecteur, peut-être. En plus, n'oublions pas que ce lecteur en question est en général une lectrice. Or, tous les grands romans d'amitié contemporains auxquels j'ai pensé pour cette chronique, on va y revenir, sont des romans mettant en scène l'amitié entre des garçons, ce qui est très troublant. Si je veux bien accepter l'augure que ce soit chez moi, la marque hélas d'un ostracisme qui n'ose s'avouer, je veux croire qu'il ne s'agisse pas que de cela.
On laissera à votre conscience et aux auditeurs le soin de l'apprécier. Mais alors, quels sont tout de même ces livres donc de garçons auxquels vous pensiez ?
Il y en a de différentes sortes, bien sûr, mais la plupart relèvent plus ou moins du roman de formation, comme si pour l'amitié, il ne pouvait y avoir de salut hors de l'enfance ou au moins de la jeunesse. Je pense par exemple à trois livres qui tournent autour, si j'ose dire, de ce thème en le mariant à celui du charisme et de ses ambiguïtés. Il y a Faber de Tristan Garcia, dont le nouveau roman vient d'obtenir le prix du Livre Inter d'ailleurs, le trop méconnu et admirable Rapportstein du très grand romancier mallorquin José Carlos Llop, qui parle d'ailleurs très bien du passage de George Sand à Majorque dans une autre de ses œuvres, et puis aussi Le Dernier des Savages de Jay McInerney, un Gatsby sur fond de folk rock et d'années 70. Là aussi, pas le livre le plus connu de son auteur, mais pour moi peut-être son plus beau, son plus intime. Dans un autre registre, plus Montaigne et la Boétie, si j'ose dire, plus français aussi, où l'amitié se fait aussi transmission, il faudrait ne pas oublier le bouleversant Son Excellence Monsieur Mon Ami chez Gallimard, où Jérôme Garcin se souvient de François-Régis Bastide et le pleure.
Alors pour terminer, Olivier, est-ce qu'on peut trouver à toutes ces grandes amitiés, à tous ces livres qui en témoignent, un contre-exemple, un livre pour dire de l'amitié, sa duplicité ou alors sa fin ?
Vous avez raison, il est coutume de dire que l'amour dure 7 ans, l'amitié n'est hélas pas toujours éternelle non plus, mais rares sont les écrivains qui le reconnaissent. À cela une exception, le très drôle, très british, toujours intelligent et bien nommé, en l'occurrence Martin Amis, qui dans l'information... qui dans l'information, sur fond de scènes de la vie littéraire londonienne, relate de manière à peine masquée sa séparation amicale avec son confrère Julian Barnes. Une femme était passée par là, le succès de l'un, l'échec de l'autre, l'occupation de soi des deux. Amis n'épargne rien, personne, pas même lui. Mais tout de même, la question se pose, Mathieu, en guise de conclusion. Un bon mot, voire même un bon livre, valent-ils que l'on y sacrifie un ami ?
Ça, on ne sait pas. En plus, on peut se faire des ennemis quand vos amis se reconnaissent dans vos romans. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Merci beaucoup, Olivier, et à très bientôt. Vous écoutez toujours La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de George Sand avec Béatrice Didier.
Si j'étais un garçon, je ferais volontiers le coup d'épée par-ci, par-là et des lettres le reste du temps. N'étant pas garçon, je me passerais de l'épée et je garderais la plume dont je me servirais le plus innocemment du monde. L'habit que je mettrai pour m'asseoir à mon bureau importe fort peu à l'affaire, et mes amis me respecteront, j'espère, tout aussi bien sous ma veste que sous ma robe. Il n'y aura pas de grande révolution dans ma vie pour cette fantaisie de porter un habit de boussingot quelques jours en passant dans des circonstances données où j'attache de tendres superstitions et le secret de certains souvenirs profonds à ce travestissement. Soyez rassurés que je n'ambitionne pas la dignité de l'homme. Elle me paraît trop risible pour être préférée de beaucoup à la servilité de la femme. Mais je prétends posséder aujourd'hui et à jamais la superbe et entière indépendance dont vous seul croyez avoir le droit de jouir. Je ne la conseillerai pas à tout le monde, mais je ne souffrirai pas qu'un amour quelconque y apporte pour mon compte la moindre entrave, sinon point d'amour. À jamais.
Un extrait d'une lettre de George Sand à l'un de ses détracteurs, le journaliste Adolphe Géroux, qui lui avait dit « N'entreprenez pas de vous faire homme vous-même, car vous perdriez le caractère de votre sexe sans pouvoir revêtir celui de l'autre. » Béatrice Didier, on est là dans l'autre pôle de l'engagement de George Sand, le pôle féministe. Qu'est-ce que cet extrait vous inspire ?
Oui, alors là, je crois d'ailleurs qu'on ne s'écarte pas tellement du thème de l'amitié dont on parlait tout à l'heure.
Oui, j'ai vu que vous écoutiez avec attention, je pense que vous allez lire tous les conseils d'Olivier.
Mais justement,
d'Olivier.
Je crois que George Sand a beaucoup défendu le thème de l'amitié, non pas seulement entre deux femmes, mais entre une femme et un homme. Et il y a toute la très belle histoire de George Sand et de Flaubert, entre qui il n'y a jamais de relation amoureuse, mais un amour qui est plutôt d'ordre filial, Flaubert étant beaucoup plus jeune que George Sand, et une amitié extrêmement solide entre eux. Alors que Souvent, on s'imagine que du moment que George Sand avait une amitié avec un homme, c'était une amitié amoureuse. Pas forcément. En fait, surtout à partir de la maturité dans la vieillesse, elle a fait l'expérience de tout ce qu'une amitié entre deux personnes de sexe différent peut avoir d'intéressant, d'important, de fort, finalement de très fort. Et peut-être d'autant plus fort que, justement, il n'y a pas de problème sexuel qui peuvent provoquer des drames. Alors, qui peuvent aussi alimenter le roman, parce que c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est beaucoup plus difficile d'écrire un roman de l'amitié qu'un roman de l'amour, dans la mesure où il y a moins d'événements, moins de drames aussi, et les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Mais néanmoins, il y a des couples d'amis dans la littérature de George Sand, et d'amis complémentaires. Par exemple, je songe à Lélia, il y a ces deux personnages de Lélia elle-même, qui est la femme philosophe, disons, un peu torturée par l'esprit, par la pensée, et puis Pulcheri, qui est au contraire une femme beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus femme au sens traditionnel du terme, si vous voulez, et les deux femmes se complètent.
Alors justement, les femmes chez George Sand, bon, quand on s'appelle George, quand on prend comme pseudonyme George Sand alors qu'on s'appelle Aurore Dupin, c'est déjà un acte qui est presque un acte politique, mais on peut le voir un petit peu de deux manières. Est-ce que c'est du féminisme ou est-ce que c'est de l'antiféminisme ? C'est-à-dire, est-ce que c'est finalement devenir un homme symboliquement pour pouvoir intégrer le monde des hommes, ou est-ce que c'est au fond le contraire ? Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Soit d'abord, il faut éviter de projeter sur George Sand, qui a suscité beaucoup d'écrits, des schémas du féminisme des années, disons, 1980, vous voyez. George Sand, c'est pas le MLF. C'est vrai, c'est autre chose. C'est un féminisme...
Oui, mais déjà, à l'époque, elle était considérée comme n'étant pas tellement pas à la pointe du mouvement féministe de l'époque.
Par exemple, ce qu'on a reproché à George Sand, c'est d'avoir parlé de la spécificité de l'homme et de la femme comme étant complémentaires et de l'importance qu'il y a pour la femme la maternité. Mais je crois que c'est pas du tout dans l'esprit de George Sand un moyen de rabaisser la femme, c'est au contraire un moyen de montrer comment la femme a un pouvoir merveilleux, celui justement de donner la vie, et que si elle arrive à ce que ce pouvoir ne soit pas aliéné par des institutions, par toutes sortes de choses, finalement c'est une force, c'est un plus. C'est un plus de pouvoir être une mère. Mais tout dépend dans quelles conditions ça se fait, évidemment. Il y a une maternité qui peut être aliénante totalement, et ça a été le cas pendant longtemps, mais il y a une maternité qui peut être libératrice, et chez George Sand, ça serait plutôt ce versant-là. Or, le féminisme, du moins dans un premier temps, a eu à lutter contre une image de la femme complètement annexée à la reproduction. Parce que, dans un premier temps du moins, il a fallu casser cette image pour acquérir véritablement une liberté.
Oui, mais pour George Sand, en réalité, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et c'est peut-être ça qu'elle a envie que tout le monde comprenne.
Je ne crois pas qu'elle est... Elle considère qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Je crois qu'au contraire, elle considère qu'il y a une différence, mais une différence qui peut être une richesse supplémentaire finalement de la femme, à condition qu'il n'y ait pas des institutions aliénantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple les différentes éditions qu'elle a données d'Indiana. Indiana,
c'est un roman féministe quand même, son premier roman.
Un roman féministe, mais on voit comment d'une édition à une autre, les préfaces change de ton. Et comment elle-même interprète différemment son roman en 1832 quand il paraît, ou 10 ans après, ou 20 ans après. On avait reproché à George Sand dans Indiana d'avoir fait la condamnation du mariage. En fait, elle dit non, c'est pas le mariage qui l'a condamné, c'est une certaine forme de législation, le code Napoléon, en gros, qui rend la femme complètement esclave.
Oui, c'est ça qui est important d'abord, c'est d'amender le code civil.
C'est ça, d'abord changer la législation. Et ensuite, le roman d'Indiana est intéressant parce qu'il est très ambigu, finalement. Il montre le mari comme un affreux tyran, mais finalement, l'amant est aussi un tyran. Donc, dans les deux cas, il s'agit de montrer comment la femme risque d'être totalement aliénée, mais que ce soit par un mari ou par un amant, ça sera à peu près la même chose.
Donc, quelle est la solution alors
qu'elle La solution, c'est d'abord le changement des lois, bien sûr, mais dans l'immédiat aussi, l'instruction des femmes. Alors, on a reproché à George Sand, par exemple, de ne pas avoir lutté pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Et elle a répondu à cette objection que le droit de vote pour les femmes, c'est très bien, lorsque les femmes auront un certain minimum de formation intellectuelle. Sinon, elles vont voter comme leur mari ou comme leur confesseur, donc ça ne change rien à rien.
Et ça choque, évidemment.
Donc, elle a beaucoup combattu pour l'éducation des femmes, et ça, je crois que c'est important. Même dans les lettres à Marcy, pour que les femmes fassent de la philosophie, pourquoi pas.
Alors, on va parler, en reprenant le cours de la chronologie, de la révolution de 1848, qui est évidemment très très importante. Comment est-ce qu'elle va vivre, George Sand, selon vous, Béatrice Didier, ce moment d'histoire précisément en train de se faire ?
Il faut dire que pour elle, ça a été d'abord un moment merveilleux, parce que c'est un moment où enfin les intellectuels pensaient qu'ils allaient pouvoir créer un régime qui correspondrait à leur idéologie. Et là, George Sand a beaucoup contribué, d'abord par son rôle de journaliste. Il y a toute une activité de journaliste très importante, dans des journaux locaux, comme l'Éclaireur de l'Indre, mais pas seulement aussi, dans des journaux comme Le Siècle avec Louis Blanc, dans le journal de la Réforme, enfin bon, dans un certain nombre de journaux, le Bulletin de la République, la Cause du Peuple, qui sont créés à ce moment-là.
Oui, qu'elle va créer.
Parce donc, qu'il faut elle dire a que... un rôle de journaliste, mais pas seulement de journaliste. Elle a une influence directe sur les hommes au pouvoir.
Parce qu'il faut dire que dès que la Révolution éclate, elle est très enthousiaste, elle va directement à Paris voir ses amis du gouvernement, et puis elle dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, les membres du gouvernement lui disent « tu n'as qu'à prendre la plume, tu n'as qu'à écrire pour nous », et précisément écrire dans notamment le Bulletin de la République. Voici un extrait de ce qu'on pouvait lire sous sa plume.
Les élections, si elles ne font pas triompher la vérité sociale, si elles sont l'expression des intérêts d'une caste, arrachée à la confiante loyauté du peuple, les élections qui devaient être le salut de la République seront sa perte, il n'en faut pas douter. Il n'y aurait alors qu'une voie de salut pour le peuple qui a fait des barricades. Ce serait de manifester une seconde fois sa volonté et d'ajourner les décisions d'une fausse représentation nationale. Ce remède extrême, déplorable, la France voudra-t-elle forcer Paris à y recourir ? À Dieu ne plaise.
C'est là qu'on voit, Béatrice Didier, que ce n'était quand même pas une femme politique au sens de politicienne, parce que
non,
ce qu'elle dit là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement choquant, de dire que les élections seront la perte de la République, quand même. Alors, expliquez-nous un petit peu comment il faut comprendre
ça. Elle n'est pas politicienne du tout, ça c'est vrai. Et elle a été déçue finalement par 48, parce que elle s'est rendue compte que finalement il y avait beaucoup d'intérêts personnels qui jouaient plus finalement que l'intérêt du peuple, et finalement elle s'est retirée de l'action assez vite, justement parce que il lui a semblé que finalement cette république c'était une république des petites combines, et c'est pas ça qu'elle avait rêvé. Alors, mais elle a continué à avoir quand même un rayonnement européen, dans la mesure où il y a toute une correspondance qu'elle entretient avec des gens comme Barbès lorsqu'il est en exil, Mazzini, Bakounine, même il y a des lettres de Georges Sand à Bakounine. Donc,
Elle reproche à Barbès d'avoir quitté le territoire français, plus tard peut-être, plutôt que de rester finalement en France.
Oui, c'est ça, c'est difficile. Donc, finalement, elle a été déçue par cette Seconde République et en ce sens, son action politique a finalement été très brève durée, mais peut-être plus importante par ce qu'elle a écrit que par ce qu'elle a fait.
Alors, dans ces bulletins de la République, il y a aussi les chroniques d'un autre personnage qui s'appelle Blaise Bonin.
Oui, Blaise Bonin.
Alors, racontez-nous qui est ce Blaise Bonin.
Bonin, c'est une création de Georges Sand.
C'est Georges Sand. Hein.
C'est Georges Sand, mais Georges Sand, paysan berrichon.
Voilà.
Qui garde, comme d'ailleurs Georges Sand elle-même, une sorte de bon sens, de simplicité dans les propos, mais aussi éventuellement de violence, car Bonin est capable justement d'être violent et de dénoncer les petites combines de ceux qui gouvernent la France.
Mais elle se met donc à la place de ce paysan qui serait un journalier, qui gagnerait 20 sous par jour l'été et 10 sous pendant l'hiver. Est-ce qu'elle a la légitimité, selon vous, pour prendre vraiment la parole à la place d'un paysan berrichon, même si elle habite dans le Berry?
Mais vous savez, bon, elle intitule ça « Lettre d'un paysan de la Vallée Noire ». Bon, donc la Vallée Noire, elle la tenait bien. Elle tenait bien aussi les paysans. Bien sûr, elle n'est pas elle-même un paysan, ça c'est évident. Mais elle a eu beaucoup de contacts avec eux. Beaucoup de contacts avec eux.
Donc vous pensez qu'elle traduit bien l'esprit des paysans du Berry?
Je pense que c'est pas mal.
Parce que c'est ça son idée quand même, c'est de donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. C'est ça la politique de Georges Sand à la fin.
Donner sa voix à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire finalement au peuple et aux femmes.
Dernier moment que j'aimerais aborder avec vous avant la fin de cette émission, c'est la Commune et la Troisième République. La Commune où là, elle ne va pas être derrière les communards. Pour
oui,
quelle
là
raison,
justement, on s'est beaucoup étonné qu'elle n'ait pas été enthousiasmée par la Commune. Alors, il faut d'abord comprendre que elle a quand même vieilli. Hein.
Elle a 67 ans au moment de la Commune.
Et puis surtout, elle est loin de Paris. Elle reste à Nohant ou dans la région. Et elle voit surtout finalement les aspects négatifs, donc elle n'a pas du tout compris finalement le sens de la Commune, le sens de cette lutte de la Commune. Mais ce que je trouve très intéressant, alors en revanche, c'est son attitude devant l'invasion allemande, devant l'invasion des Prussiennes en fait. J'ai publié il y a peu de temps dans les œuvres complètes de Georges Sand le journal qu'elle a ce journal qu'elle a remanié, mais le journal de la guerre de 1871. Et j'avais chargé de faire cette édition un chercheur allemand qui est professeur à Düsseldorf, Frank Leinen. Et il a fait ça très bien, et j'étais sûre que ça serait intéressant de faire éditer ce texte par quelqu'un qui voyait les choses de l'autre côté.
Mais qu'est-ce qui vous semble particulièrement intéressant dans la manière dont Georges Sand parle
de
l'invasion?
C'est très intéressant, d'abord parce que c'est un texte qui relate les horreurs de la guerre, d'autant plus qu'il y a en plus de ça une épidémie de variole, toutes sortes de catastrophes qui se mêlent dans la région où elle est. Mais chez elle, il y a un refus de simplifier l'image de l'allemand brut qui détruit tout, etc. Et au contraire, un rêve d'une période qui arriverait plus tard, où il pourrait y avoir une entente entre un Allemand et un Français qui communierait dans un désir de paix européenne.
Donc, il y a quelque chose de très raisonnable, en fait, chez Georges Sand à la fin de sa vie.
Très raisonnable et justement qui dépasse les réactions vont forcément beaucoup plus vives qu'elle peut avoir devant l'horreur de la bataille, devant l'horreur de la mort, etc. Mais il y a véritablement chez elle un désir de compréhension qui est intéressant. Et alors justement, ce spécialiste allemand, professeur à Düsseldorf, a fait des recherches très intéressantes sur la réception de ce texte en Allemagne. Ça avait été très peu étudié, en fait, d'autant plus que c'est des textes en allemand, évidemment. Et on voit que beaucoup d'Allemands ont apprécié ce texte de George Sand, qui pourtant, à le point de vue des Français, évidemment.
Eh bien, c'est sur cela que nous achevons notre émission. Béatrice Didier, je vous propose, comme chaque jour, si vous le voulez bien, d'écouter un peu de poésie. Ça vous ferait plaisir ?
Volontiers, volontiers.
Alors, on y va. Et cette semaine, Jacques Bonnafé nous propose tout simplement d'habiter poétiquement le monde.
Bonjour, cette semaine, nous feuilletons l'anthologie manifeste « Habiter poétiquement le monde » paru chez un nouvel éditeur, Poésis. Nous aurions pu dédier cette deuxième journée à Novalis, poésie réelle absolue, dit le premier titre paru chez cet éditeur. On écoute d'abord une citation de Madame de Staël, de la contemplation de la nature. « La poésie est une possession momentanée de tout ce que notre âme souhaite. L'homme est placé sur la terre entre l'infini des cieux et l'infini des abîmes, et sa vie, dans le temps, est aussi de même entre deux éternités. De toutes parts entouré par des idées et des objets sans bornes, des pensées innombrables lui apparaissent comme des milliers de lumières qui se confondent et l'éblouissent. » Emily Dickinson, un poète, c'est ce qui extrait un sens surprenant de signes ordinaires. Cahier 21, paru en 1862. C'était un poète. C'est ce qui extrait un sens surprenant de signes ordinaires. Une si vaste essence des espèces familières ayant péri à la porte, qu'on s'étonne de ne pas soi-même l'avoir captée d'abord. D'image révélateur, le poète, lui et nul autre, par contraste, nous investit d'une incessante pauvreté. De la part si inconscient qu'un vol ne saurait le léser, lui-même, pour lui, un trésor au temps étranger. Les objets de ses pensées sont partout. Il ira partout où il pourra trouver une atmosphère propice à l'émotion dans laquelle déployer ses ailes. La poésie est le premier et le dernier des savoirs, elle est aussi immortelle que le cœur de l'homme. C'est précisément parce que la poésie est universellement présente et pénètre tout qu'il nous est plus difficile de la concevoir, tout comme nous ne percevons guère l'air dans lequel nous respirons et vivons. August Wilhelm Schlegel, Poésie, 1801-1804. De son côté, Ralph Waldo Emerson dit dans Le Poète en 1844 « Le poète est celui qui dit, celui qui nomme, et il représente la beauté. C'est un souverain qui se tient au centre des choses, car le monde n'est ni peint, ni paré, et beau dès l'origine. Dieu n'a pas créé un certain nombre de choses belles, c'est la beauté qui est créatrice de l'univers. Il s'ensuit que le poète n'est pas n'importe quel potentat permissif, mais qu'il est empereur de plein droit. » Ralph Waldo Emerson, en 1844. L'irritabilité, l'amour de l'effet produit et le besoin d'admiration. Et sous l'influence de tels démons, il peut m'arriver de temps en temps de dire plus de choses ridicules que je n'en ai conscience. John Keats, la poésie de la terre ne meurt jamais. Yves Bonnefoy, la poésie n'est pas une activité littéraire orientée vers la production de textes, mais la forme la plus fondamentale des rapports interhumains et, à ce titre, une façon avant tout de vivre, de réfléchir à la vie, une intervention dans le devenir de la société. Espérons, contre toute évidence, que notre humanité pourra un jour habiter poétiquement sa terre, miraculeusement épargnée. Habiter poétiquement le monde, anthologie manifeste chez Poésis.
Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Habiter poétiquement le monde, une lecture dans la voix de Jacques Bonafé. Ainsi s'achève ce deuxième numéro d'une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à jeudi à Georges Sand. Un très grand merci à vous, Béatrice Didier, d'être venue au pied levé nous parler de Sand et la politique. Et puis je rappelle que vous venez de publier au PUF un essai intitulé « Georges Sand, écrivain, un grand fleuve d'Amérique ». Cette émission est disponible en podcast et à la réécoute en ligne directement sur notre site. Nous sommes également présents sur Twitter, Facebook aussi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre avant demain. Nous parlerons ici même de Georges Sand et des sorcières. Ce sera avec Vincent Robert. Cette émission était réalisée par David Jacubovies, à la console Anthony Thomasson. Merci à Anne-Vanessa Prévost, Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Sophie de Lombarès,